À la une, beaucoup de pétards en ville ce matin. Les Lions sont sortis. Le tribunal administratif qui fait son bilan 2024. Les discussions sans solution à Témet. Et enfin, une étude sur les Rémentas. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Les lions sont de sortie au centre-ville depuis ce matin.
Oui, des troupeaux entiers, rouges ou dorés, pour venir souhaiter la bonne année chinoise. Beaucoup de danse, dansant et de pétards aussi. D'abord au temple Kanti ce matin, puis au siège du Sinitong rue Colette, où les responsables des associations culturelles, quelques officiels et même le consul de Chine avaient fait le déplacement pour le réveil des lions. Ils n'ont pas tardé à partir à l'assaut des magasins du centre-ville pour chasser toutes les ondes négative et apporter la chance, la joie, mais surtout la prospérité pour cette nouvelle année. Après l'année du dragon, s'ouvre celle du serpent de bois. Pour le Sinitong, l'important n'est pas vraiment dans le zodiaque chinois, mais dans les célébrations elles-mêmes. Elles sont là pour transmettre les traditions et rappeler la diversité du Fénois. On écoute Patrick Young, le président de l'association Wenfa.
C'est une vitrine en fait hein, de la culture chinoise. Ce qui est magique ici en Polynésie, c'est à la fois la diversité et puis on peut aussi parler peut-être d'harmonie aussi. Hein. Quand on voit cette période de festivité, on a tout le monde qui s'habille en tenue chinoise et puis on a une ambiance aussi dans les écoles. Et le défilé en interne, c'est une belle image en fait qu'on peut donner à la Polynésie. C'est un moyen de contribuer un peu à la richesse un peu culturelle qu'on a en Polynésie.
Voilà une richesse culturelle dont on va pouvoir profiter dans ces prochains jours. Alors il y a le bal du Nouvel An ce samedi au Temple Kanti, mais il s'agit d'une soirée sur invitation. Il y a aussi le cocktail organisé à la présidence le 7, mais là aussi plutôt réservé à la communauté chinoise. Et pour le grand public, deux dates sont à noter. La journée culturelle dans les jardins du Temple de Mamao qui attire tous les ans des centaines de personnes, ce sera le dimanche 9 février. Et puis bien sûr le traditionnel défilé des lanternes au départ de la mairie de Papeete, ce sera le 15 février prochain. Et en attendant, Kune Fat Choy à tous.
Changement d'ambiance avec le tribunal administratif qui a fait son bilan de l'année 2024.
Oui, le président Pascal Devillers souligne que cette année a été marquée par un chiffre particulièrement bas, un tout petit peu plus de 500 requêtes enregistrées, le nombre le plus bas depuis 5 ans et par ailleurs un chiffre plutôt haut, celui des décisions rendues, près de 580 l'an passé, ce qui a permis de réduire de 15% le stock des affaires qui restent à traiter. On l'a déjà dit plusieurs fois, le tribunal administratif de Polynésie est le plus rapide de France. On écoute Pascal Devillers.
On a la chance d'avoir ces statistiques et puis c'est très favorable pour le tribunal parce que c'est agréable de travailler sur des dossiers qui ont encore beaucoup d'intérêt pour les administrés. On juge à chaud, si je puis dire. Et puis, c'est évidemment préférable pour les administrés d'avoir une décision rapidement, même si ça n'est jamais assez rapide. On en a bien conscience, hein, bien sûr. Bon, on a aussi les procédures de référé qui sont jugées en moyenne pour les référés d'urgence en 10 jours et qui permettent de pallier aussi éventuellement cette absence de rapidité des dossiers au fond.
Un quart des affaires traitées sont relatives à des contentieux de la fonction publique. 2024 a aussi été l'occasion d'observer une augmentation des contraventions de grande voirie, c'est-à-dire les atteintes au domaine public. Et du côté des contentieux liés aux Civennes, les affaires traitées ont plus que doublé cette année, ce qui s'explique par le calendrier. On vous le rappelle, le dépôt des dossiers pour les ayants droit devait initialement arriver à son terme cette année, mais le délai a été rallongé il y a quelques jours. Et enfin, on remarque une augmentation des missions consultatives du tribunal administratif qui peut être saisie par le haut-commissaire ou par le pays sur une question relevant de sa compétence juridique.
En moyenne, on en avait 4 les années précédentes et là, on en a eu 13. C'est une marque de confiance pour le tribunal, on est honoré. En même temps, ça nous occupe beaucoup parce qu'à chaque fois, ce sont forcément, si elles arrivent chez nous, c'est que ce sont des questions complexes hein, qui nécessitent un travail de recherche important et qui sollicitent la collégialité du tribunal aussi. Je pense que pour celui qui pose la question, que ce soit l'autorité de l'État ou l'autorité du pays, c'est une façon d'avoir plus de certitude sur la bonne solution et puis peut-être aussi une caution dans des débats futurs sur la solution qui est proposée.
Et à retenir également cette statistique, 31% des affaires traitées à Papeete font l'objet d'un appel devant la Cour administrative à Paris et 71% des jugements du tribunal administratif sont confirmés.
On retourne à la plage de Témet à Moréa où on discute mais on ne trouve pas de solution.
Oui, souvenez-vous, dans ce dossier qui oppose le groupe Van et les associations locales avec la mairie au milieu, en septembre dernier, Moëté Broversen avait demandé aux parties de se concerter pour trouver un compromis. Il s'agissait de conserver un accès correct à la plage publique pour la population et de permettre la construction d'un nouvel hôtel de luxe. Depuis septembre dernier, 3 réunions ont eu lieu et les choses ont un peu évolué. Le groupe Van qui voulait fermer au public la route de la Cocoteraie est prêt à la laisser ouverte, mais selon selon un nouveau tracé qui reste encore inconnu. L'hôtelier est également d'accord pour respecter la zone humide, mais aucun texte n'est encore pris au niveau du pays pour en fixer les limites. Mais le cœur du problème reste la dimension de la plage publique. Les associations veulent maintenir l'emprise prévue au PGA, tandis que le groupe Van veut la déplacer. En échange d'une partie de ces terrains située le plus loin possible du projet hôtelier et diminuer de moitié du coût l'accès maritime pour le public, on écoute Alain Bonneau de l'association des habitants de Témet.
L'enseigne hôtelière qui met son label là ne conçoit pas qu'il y ait un parc public aux abords et aux limites de l'hôtel. Et Van dit, moi si j'ai pas l'emprise réservée en l'état actuel, je construis pas. Alors, je sais pas si c'est du lard ou du cochon, de dire, bah c'est pas grave, on va économiser 15 milliards, on va attendre ou on investira ailleurs.
Et la mairie, jusqu'ici favorable au projet du groupe Van, a un peu changé. Elle dit désormais ne pas avoir les moyens de racheter l'emprise et aurait adressé un courrier au président pour lui demander de le faire.
Effectivement, c'est une nouveauté et on a saisi l'occasion de la dernière réunion de dire, bah, écoutez, semble qu'on soit d'accord avec la mairie sur le maintien de l'emprise réservée telle qu'elle est et avec sa destination finale, c'est-à-dire le projet de parc public, mais vous prétextez que vous n'avez pas les moyens financiers. Et donc, bah, chiche, unissons-nous et allons demander à Moitei en disant, bah, voilà, maintenant, vu que la mairie n'a pas de sous, on demande au pays de bien vouloir l'acquérir.
Et même dans l'hypothèse d'un rachat par le pays, il faudra trouver un prix. Le groupe Van n'est évidemment pas d'accord avec l'évaluation des affaires foncières et valorise cette emprise non constructible sur la base du mètre carré constructible. Reste donc à savoir si le pays pourrait se résoudre à l'expropriation.
De la politique en bref avec le gouvernement qui est actuellement aux marquises.
Oui, vous le savez, le président du pays et les ministres sont actuellement à Nuku'hiva. Ce conseil des ministres délocalisé est le premier dans l'archipel. Et les Hakaiki avaient beaucoup de sujets à mettre sur la table. Les projets communaux habituel de gestion des déchets, de l'eau potable, de l'assainissement, mais aussi ceux de l'archipel comme le développement de la marina, du carénage, de l'ouverture d'un abattoir, l'aéroport international ou encore le projet de musée de Hiva'oa. Il souhaitait également parler de l'aire marine protégée et du statut de la Codim. De nombreux sujets sont actuellement en train d'être discutés et en vrai passionné des nouvelles technologies, Moitei Broversan a même interrogé ChatGPT et DeepSeek sur les enjeux majeurs concernant l'île de Nuku'hiva. Réponse sur sa page Facebook. Et puis ce conseil des ministres doit aussi se décider sur l'augmentation des fonctionnaires territoriaux de catégorie D. Nous suivrons bien sûr attentivement l'actualité sur place.
Et souvenez-vous, on vous parlait d'une étude sur les baleines la semaine dernière. Voici maintenant celle sur les rémontas.
Oui, décidément, nos espèces marines ont la cote auprès des scientifiques. Cette fois, il s'agit d'une étude qui va durer 3 ans sur les 2 espèces de rémontas présentes en Polynésie. Celle de récif et la grande rémonta océanique qui peut tout de même atteindre 7 mètres d'envergure. C'est l'Observatoire des requins de Polynésie française qui porte ce projet soutenu par le pays avec des financements aussi de l'Office français de la biodiversité. Alors ce n'est pas la première étude. Des programmes avaient déjà été lancés, mais il s'agit cette fois d'aller beaucoup plus loin. On écoute la biologiste qui mène ce nouveau programme, Alice Carpentier.
On a fait un premier état des lieux en 2022-2023 grâce à un financement de la DIREN. Et cet état des lieux, finalement, il nous a permis de poser beaucoup plus de questions. En fait, on a eu plus de questions que de réponses sur les rémontas. C'était rendu déjà dans beaucoup d'îles pour commencer à collecter des données sur le terrain et aussi collecter des témoignages avec les populations. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de l'ampleur du projet de recherche, si en tout cas on veut comprendre les populations rémontées en Polynésie.
Et ce programme va permettre de connaître plus précisément l'état de santé de la population, faire un recensement, savoir où elles vivent, comment elles se déplacent et donc quelles sont les menaces qui pèsent sur elles pour mieux les protéger. L'idée est de créer une réglementation adaptée et un protocole d'intervention d'urgence en cas de capture accidentelle ou d'animaux blessés.
Ils sont en danger, en fait, dans la liste de l'UICN, de l'Union internationale de la conservation de la nature. On a déjà vu que sur certaines îles, les populations, il y a de moins en moins de rémontas. Ça, c'est le cas, par exemple, de Bora Bora, où on a des chiffres entre 2002 et 2005, des données anciennes qui avaient été collectées par une association. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a moins de rémontas à Bora Bora que ceux qu'ils avaient il y a une quinzaine d'années. Donc on a vu qu'elles sont fragiles. En fait, elles se reproduisent très lentement.
Un seul bébé par portée et seulement tous les 2 à 7 ans en moyenne, précise Alice Carpentier. La population peut donc très vite disparaître. C'est déjà le cas sur Tahiti et Moorea. Selon la scientifique, les anciens racontent qu'ils en voyaient beaucoup plus, surtout lors de la la saison des Atouré où les remontas venaient jusque dans les baies.
Et pour terminer, un peu de glamour avec le casting de Miss Tahiti qui fait le plein cette année.
Et oui, déjà 14 candidatures alors qu'habituellement à la même époque ce sont seulement 4 ou 5 filles qui se sont fait connaître. La directrice du comité, Léana Faugera, a dit sa surprise mais aussi sa satisfaction de voir autant d'engouement. Elle rappelle que les règles sont plus souples ici qu'en France, les candidates peuvent être tatouées, il n'y a pas de minimum de taille et la limite d'âge a été repoussée à 28 ans, un seuil d'âge qui a pourtant été totalement supprimé pour l'élection de Miss France. Et d'ailleurs, la Miss France 2025 a 34 ans, mais ici, pas question d'aller au-delà de 28 ans. Pour Léana Faugera, les femmes peuvent être moins disponibles avec une vie de famille et des enfants. La directrice du comité souhaite ici toujours correspondre aux critères des élections internationales comme Miss Monde ou Miss Univers. Et dans tous les cas, le casting est lancé jusqu'en fin février avec un début des répétitions prévues en mars. Les sélectionnés enchaîneront ensuite au mois d'avril sur les tournages et les shootings photos en vue de la soirée de gala et d'élections prévues en juin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour ce journal. Maintenant, on passe à la météo sur Radio 1. Restez avec